Je voulais vous montrer des choses que vous connaissez parce que c'est impressionnant d'avoir l'auditoire qui est là. Je suis content de voir qu'il y a des anciens et des nouveaux. Je suis content de voir qu'il y a des gens qui ont un certain âge et puis des jeunes. Je suis content de voir des gens de certainement, j'en connais quand même quelques-uns qui ont des professions très diverses. On ferait la même réunion à quai, on n'aurait pas le même public. Mais j'y reviendrai. Donc ça, c'est une chance, et c'est une chance que vous avez surtout. Donc, qu'est-ce que vous dire? Je voulais dire deux mots sur mon parcours, parce que c'est toujours bien, avant d'entendre quelqu'un vous faire un certain nombre de remarques, de savoir qui c'est. Bon, il y en a un certain nombre qui me connaissent, certains très bien, d'autres moins bien. Mes parents sont arrivés à quai en 52. Ça paraît loin, hein, 1952, j'avais 6 ans. Donc j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à quai, au hameau de la Frette, pour ceux qui connaissent, mais vous connaissez quai, sous le mont Tichat, là, sous l'Arraché, et quai qui ne s'appelait pas encore quai en Chartreuse. Et c'est un maire de quai, qui s'appelle Docteur Gondran, qui avait eu cette idée, qui était une idée un peu prémonitoire, de dire « Mais pourquoi on n'appelle pas ça quai en Chartreuse ?» Et c'est vrai qu'on pourrait appeler provision en Chartreuse aussi. Et je pense que c'était, de ce point de vue-là, une bonne idée. Mais à cette époque-là, quai était déjà quand même dans le massif de la Chartreuse. J'y reviendrai parce que je vais commencer par le fait que Provézieux, c'est une commune du massif de Chartreuse. Et que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a tendance à... On pense tout de suite le parc naturel, maintenant on pense beaucoup la métro, les pressions diverses et variées, mais la première des choses essentielles et fondamentales, c'est que c'est une commune du massif de la Chartreuse. Et c'est ça, je pense que c'est un élément permanent très fort, parce que les parcs, ils disparaîtront, les métros, vous ne faites pas d'illusions, elles disparaîtront peut-être plus vite que ce qu'on croit, mais la Chartreuse, elle restera, hein, et avec un certain nombre de contraintes et d'atouts. Alors, j'ai fait mes études primaires à quai, bien sûr, à une époque où on faisait tout ça à pied, où il n'y avait pas de ramassage scolaire, évidemment. Et puis, le village, à l'époque de quai, avait 300 habitants. C'était une petite commune, je ne sais pas combien avait Provézieux dans les années, la décennie 50-60, mais moins que quai, sans doute encore. Et la commune de quai, elle a été, à l'époque où elle a été la plus importante, elle a eu 1500 habitants, on est actuellement à 1000 à peu près, je crois. Donc on n'est toujours pas à 1500. Et on a beaucoup plus de maisons construites qu'autrefois. Sauf que les familles, maintenant, soit sont des familles unicellulaires, soit sont des familles avec un ou deux enfants, voire pas d'enfants, alors qu'il y avait des familles de 10-15 enfants, hein, à cette époque-là. Ben, 10 enfants, oui, il y avait 2-3 familles sur pied qui avaient plus de 10 enfants. Après, j'ai fait des études au lycée. J'étais interne parce que ça arrangeait mes parents, disons, pour des problèmes de mobilité, parce que bon, nous, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien, c'était tout à pied. Et puis après, j'ai eu la chance, c'est pas la malchance, j'ai eu la chance de traverser la machine éducation nationale. Je l'ai parcourue d'un bout à l'autre. Je ne dis pas de la base au sommet, parce que je ne sais pas où est la base, je ne sais pas où est le sommet, mais je l'ai traversée. J'ai eu une formation d'instituteur, d'élève instituteur à l'école normale de Grenoble. J'ai fait des stages, mais je n'ai pas eu d'école primaire en responsabilité. Dans la foulée, j'ai fait les 2 ans de formation pour être professeur de collège, en gros. Ça s'appelait CEG à l'époque, les CEG. Pareil, mon premier maître de stage, ça a été quelqu'un dont vous avez entendu parler, Robert Mazer, qui a été longtemps maire de quai. Ensuite, j'ai passé l'agrégation CAPES, bref. Et je suis parti à l'étranger. À l'époque, on faisait la coopération pour ceux qui voulaient échapper à la caserne. Je faisais une coopération civile et je suis resté 2 ans au lycée français du Caire. Et quand je suis rentré, ben c'est là que, avec mon épouse, on s'est installé au restaurant des chasseurs, enfin l'ancien restaurant des chasseurs chez M. Vosnin, hein, à l'époque M. et Mme Vosnin, à Pomaret. On est resté 4 ans pour trouver une maison. On n'a pas trouvé Provézieux, autrement on aurait été Provézard. Et on a trouvé sur quai, parce que disons que j'avais des entrées sur quai, peut-être plus facile. Mais c'était déjà délicat de trouver une maison à quai, parlons pas d'aujourd'hui. Je crois que même en ayant une excellente retraite, on serait bien en peine de s'installer à quai aujourd'hui. Alors, je voudrais dire 2 mots de ma compagne qui n'est pas là, parce qu'elle a été élue à quai. Donc ça aurait été bien pour les discussions en même temps que vous ayez une élue et elle a porté le projet de l'école maternelle à l'époque, ce qui ne s'est pas fait sans mal. Elle a eu des appuis au conseil, heureusement, mais elle a eu aussi des gens qui n'étaient pas du tout d'accord et qui expliquaient que les femmes avaient qu'à s'occuper de leurs gamins et on n'avait pas besoin de faire une école maternelle. Elle avait monté une association ADMR, aide à domicile en milieu rural, qui a, il y a des gens provisoires qui y ont travaillé, aussi une dame, je me souviens, pendant 25 ans, qui a fonctionné. Et moi, j'ai été président du sous des écoles de Quai pendant 7 ans. Bon, là-dessus, c'était quasi entre nous décidé que j'allais être candidat à quelque chose, comme conseiller ou autre. Et puis, elle est tombée malade, et puis moi, dans la foulée, un cancer, et puis voilà, bref. Et maintenant, je m'occupe de l'entretien du paysage autour de chez moi, et j'ai entre autres, je me suis un peu lancé dans la plantation d'arbres fruitiers suite au verger de Quai Crevézieux, là, du conservatoire, d'anciennes variétés. J'en ai planté une petite cinquantaine, qui ont un peu du mal à venir, vu les ennuis procurés par les chevreuils et les cerfs. Mais vous connaissez ça aussi ici.
Vous connaissez ça aussi.
Et puis nous avons eu dans notre longue vie commune trois enfants qui ont 50 ans maintenant. Je dis parce que ça, les parcours des enfants peuvent éventuellement intéresser des gens qui sont ici. Y a le dernier est charpentier, ça rappellera des gens de Provézieux qu'ils ont un bon charpentier ici, c'est celui qui avait fait notre tour en 67, qui s'est mis à son compte. Une fille qui est éducatrice spécialisée. Et un fils qui est maintenant responsable d'un bureau d'études sur la gestion des déchets, entre autres, qui travaille beaucoup avec les collectivités locales, territoriales, toutes les intercours, les EPCI, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ça suffit, hein, je ne vais pas raconter le reste de ma vie. Mais, et on a 10 petits-enfants, donc qui sont tous soit en recherche de travail, soit en fin d'études, soit en début d'études. Donc ça donne une bonne idée quand même un peu de ce qui se passe aujourd'hui en matière de formation, en matière professionnelle. Alors, pour... il faut que j'appuie sur quoi là? Moi, je suis pas un grand...
Moi, je fais.
Tu oui. fais, ah, c'est très bien. Je me proposais... Attends, on laisse les 4 points là avant. Je suis géographe, je vous ai dit. Donc je vais faire une lecture géographique. N'attendant pas de moi que je vous fasse une lecture économique, politique ou autre. On pourra en parler si vous voulez. D'abord, les enjeux, le problème que je crois fondamental et qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on est d'abord dans un massif de moyenne montagne qui s'appelle la Chartreuse. Je commencerai par ça. Ensuite, il y a des enjeux qui sont liés à la présence d'un parc naturel régional, c'est Chartreuse, et je ne vais pas me dire, mais pour avoir navigué un peu à la région dans les PNR, avoir un peu mouillé dans le PNR de Baronnie, enfin bref. Je crois que le PNR, c'est un bon moyen d'action. Et c'est un bon moyen d'action sur des projets collectifs, quel que soit le domaine, que ce soit la forêt, l'agriculture, le patrimoine ou autre. Un parc, c'est un bon porteur de projet, non seulement auprès de la région, parce que c'est un outil de la région quand même. Mais c'est un bon porteur de projet au travers de budgets européens, par exemple, hein, des programmes leaders ou autres. Et on a parfois un peu tendance à oublier ça. Et on a la chance d'être dans un PNR. Par ailleurs, on peut en penser ce qu'on veut, la manière dont il fonctionne, ça c'est encore autre chose. Mais sur le fait même que ce soit un PNR, je pense qu'il faut l'utiliser. Ensuite, les enjeux nouveaux, ben c'est ceux de la proximité du monde urbain, hein, mais ils sont nouveaux sans être nouveaux, parce qu'ils ont toujours existé. Je relisais Raoul Blanchard, qui fut un géographe alpin fort connu, et qui écrivait en 1938 dans son bouquin sur les Préalpes, en parlant du balcon sud de Chartreuse, il parlait de la banlieue grenobloise. Ben, je me suis dit, mais comment déjà il pouvait parler de la banlieue? Mais c'était pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui en disant le sud de Chartreuse est devenu une banlieue de la métro, une banlieue nourricière de l'agglomération grenobloise. Vous êtes bien placé pour le savoir, hein, il y a eu à Provézieux, comme à Quai, comme à Mont-Saint-Martin ou à Sarcenas, vous le savez, un certain nombre d'activités qui était propre aux communes, mais qui en fait ne fonctionnait que par rapport au monde urbain qui était en bas. Et donc qui a favorisé un certain nombre d'activités et de rentrées financières pour les ménages aussi. Hein. Et c'est intéressant de repenser à ça, parce que par rapport à de nouvelles activités, si on dit banlieue, on pense uniquement à l'aspect résidentiel, hein, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Et puis, c'est quoi le quatrième ? Alors, au travers de ces trois entrées, hein, le massif de moyenne montagne, le PNR, et puis cette métro, quid là-dedans d'une petite commune, 500 habitants, c'est ça ?
523,
vous pouvez m'enlever. Hein. 523, mais ça fait une des petites communes de la métro, finalement. Hein. C'est pas la plus petite, parce que ça doit être Mont-Saint-Martin.
C'est Mont-Saint-Martin avec 80.
Et j'ai des blancs.
C'est
vache.
Provisieux par rapport à.
Ah oui, c'est ça. Dire qu'une petite commune comme ça par rapport à une énorme agglomération, je reviendrai là aussi sur l'appellation métropole, mais à une agglomération comme la cuvette grenobloise, ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Ça, les gestionnaires le savent bien, les associations aussi. Alors, on va commencer par. Les enjeux liés à un massif de moyenne montagne. J'ai commencé par cette carte, c'est pour juste pour. Elle n'est pas belle, mais peu importe, je l'ai récupérée, ça a été fait, je ne sais plus où. Je devrais le savoir. Je ne sais pas si c'est pas. Ça ne sort pas de la charte d'urbanisme. C'était pour montrer où se situe la Chartreuse. Donc vous repérez le lac Léman, l'agglomération lyonnaise, l'axe rhodanien, nord-sud, là, et puis ce qu'on appelle maintenant. Improprement, pour un géographe, mais enfin, le sillon alpin, c'est-à-dire cette zone urbanisée, on la voit bien là, qui court depuis Genève hein, jusqu'à Valence, quoi, et qui rejoint l'axe nord-sud. Et la région, feu la région Rhône-Alpes, puisque maintenant c'est ouvert normal, la région Rhône-Alpes est construite au travers de ces deux structures. Et sur cet axe dit sillon alpin, qui est très urbanisé, on a effectivement les massifs préalpins. Et on a un ensemble, et c'est pas, j'y reviendrai à propos des PNR, c'est pas du tout gratuit, on a un ensemble de parcs naturels régionaux, pilotés par la région, qui sont celui du Jura, tout au nord, ensuite le PNR des Vosges, ensuite la Chartreuse, le Vercors, et qui rejoint aussi le PNR des Monts d'Ardèche. Et donc nous, je peux dire nous aussi, hein, nous... On est sur le plus petit des massifs préalpins, donc ce massif de la Chartreuse, qui fait 350 km², qui fait 12 à 15 km de large, c'est pas grand-chose, hein, qui a une altitude moyenne assez faible, mais par contre, qui a de forts dénivelés. Donc vous êtes bien représentatif, la commune Provisieux est bien représentative de ce point de vue-là, de l'ensemble du massif, hein, pas très élevé, mais avec quand même des dénivelés, vous démarrez à combien, 250 300, à 300 et vous montez à un peu plus de 1700 à la Pinière, c'est ça ouais. Vous êtes, comment dire, délimite ce massif, alors, tu passes ?
Oui.
S'il te plaît. Ce massif, le voilà.
Là, on a une, j'aime bien cette photo parce qu'on a une vue de l'ensemble du massif de Chartreuse. Vous voyez, c'est un petit massif. Et vous êtes situé là dans cette dépression, on s'incline un peu importe, cette dépression là, qui monte là, vous avez une maison là, et qui est, cette photo a été prise il y a un certain nombre d'années parce que l'urbanisation à quai et même en provision n'est quand même pas plus de ce type aujourd'hui.
Et ce massif, il surplombe, il a deux coupures, donc la coupure nord, la cluse de Chambéry, et la coupure sud, là, la coupure de Vorep, hein. Et ce qu'on appelle le balcon sud, c'est toute cette partie entre Mont-Saint-Martin, Provisieux, Quai-Sarsena, et le bassin du Sapé, ici, au pied de Chamchon, que vous voyez là. Avec cet axe nord-sud du massif, qui est la route des cols, quoi, hein, col de Porte, col du Cucheron, col du Granier, qui. Toute la structure, si vous voulez, du massif, elle est
un peu nord-sud si on, si on schématise un peu. Hein. Elle est un peu nord-sud et est-ouest, il y a peu d'ouverture, si ce n'est les deux vallées des, du Guémor et du Guévif, qui débouchent sur l'avant-pays, sur Saint-Laurent-du-Pont et sur les Échelles. Pas d'ouverture vraiment sur le Grésy-Roudan, puisqu'il n'y a en fait qu'une route, mais qui n'est pas ouverte toute l'année, entre Saint-Pierre-Chartreuse, Saint-Hugues et Saint-Pancras et peut-être des petites tranches, mais autrement, il n'y a pas d'ouverture du massif sur, sur le Grésy-Vaudan. Ce qui fait qu'on a un massif qui est, j'ai tendance à dire, qui est bien structuré, mais qui en même temps se déverse vers l'extérieur. Le Balton des Petites Roches, à partir de là, toute cette partie-là, hein, Saint-Pancras, Saint-Hilaire, Marcieux, tout ça, qui est tourné complètement sur le Grésy-Vaudan. La partie sud, qui est tournée complètement sur la, la Glo de Grenoble, et puis les parties ouest, qui elles regardent vers, vers l'Avant-Pays. Donc c'est un massif en fait qui a une unité forte. Bon, c'est une unité climatique, c'est une unité de relief, c'est une unité de paysage, il y a un paysage de Chartreuse. Et, mais en même temps, qui a des sous-ensembles, on va dire, qui se distinguent les uns des autres et qui ont du mal à s'articuler entre eux. Vous, c'est encore plus, j'allais dire, c'est plus sensible depuis que la route est coupée à, au col de Charmette. Parce qu'avant, vous aviez une ouverture quand même sur cet axe-là secondaire, mais qui permettait, qui était aussi nord-sud, qui permettait de rejoindre Saint-Laurent-du-Pont. Bon, maintenant, c'est du passé, ça, c'est terminé. Et donc, même les habitants ont parfois du mal, ils savent qu'ils sont en Chartreuse, mais ils ont du mal à se dire, bon, si t'es de Marcieux, finalement, c'est comme si t'es de Provézieux, ou si t'es de Quai, c'est comme si tu es de je sais pas où, là-haut, comme Saint-Aupe ou autre. Ça paraît quand même assez, assez éloigné, même s'il y a des facteurs... facteurs de cohérence qui existent quand même. Hein. Donc, un massif bien individualisé, mais qui est quand même fragmenté, et un massif qui, globalement, alors là, on le verra sur d'autres photos, mais globalement, est sous pression urbaine. Sous pression, pardon, oui, on peut dire urbaine, parce qu'il est sous la pression de l'agglomération lyonnaise via un certain nombre de gîtes de résidences secondaires ou autres. Hein. L'influence de Lyon, surtout le versant ouest, est loin d'être négligeable. Et après, bon, il y a l'influence du Grésy-Vaudan, la commune de Chambéry, de la commune de Chambéry, et puis bien sûr de l'agglomération grenobloise. Donc une pression urbaine forte, mais en même temps, c'est un massif qui a une histoire commune. Parce que quand on regarde un petit peu les communes du massif, on peut commencer par celle de Provézieux, mais après on peut prendre Quai, le Sapé. Saint-Pierre-d'Entremont, c'est pareil. Ce sont toujours des communes qui ont eu historiquement une vie économique active en interne, que ce soit par l'exploitation des matériaux réfractaires ici, vous le savez, que ce soit par l'exploitation du bois dans presque toutes les communes, les charbonniers qui venaient, les fagots qu'on faisait pour les boulangeries. Les productions locales qui étaient écoulées sur les marchés grenoblois de l'agriculture et ainsi de suite. Et il y a une tradition de ce point de vue-là et un patrimoine qui est extrêmement riche. Et au passage, je relisais c'est Chantal Mazard qui m'a fait ça, l'étude sur le patrimoine de Provézieux au moment de la création du parc. Et là, il y a un potentiel qui est un potentiel énorme, en fait, hein, mais qui est qu'on retrouve dans les autres communes, souvent. Hein, une tradition métallurgique, une tradition des meules dans l'enfer, et à qui est pareil, enfin bref, vous le savez mieux que moi tout ça. Et puis, une activité touristique, quand même, qui a concerné nombre des communes de Chartreuse, y compris la vôtre. Je pense à l'école de peinture Provézieux qui a tiré quand même beaucoup de pas mal de monde au 19e. Hein. Et puis pour le balcon sud, c'était le Sapé qui était un pôle de tourisme
quand même qui a été un groupe de touristes extrêmement actif avec des hôtels, etc., du séjour et du ski, puisque c'est une des communes où le ski est né dans les Alpes. Ce massif de la Chartreuse, je conclurai par ça, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on est aujourd'hui un entrepreneur local, quoi qu'on fasse. Ce massif a une image extrêmement forte. La Chartreuse, vous allez, j'allais dire, presque partout, peut-être pas dans le monde, et encore que, on me dit, moi je dis pas je suis Grenoble, je dis je suis de Chartreuse, ça marche. Hein. C'est étonnant. Alors, il y a le fait religieux qui joue quand même, lors des Chartreux, ça compte, et puis il y a la boisson qui est répandue largement, ça compte, et il y a une image qui est très, très positive de ce massif. Et qui peut être utilisé pour valoriser un certain nombre de réalisations, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient forestières, quelles choses que vous voulez. Ce massif, il a quand même, puisque c'est un massif de moyenne montagne, il y a des contraintes qui sont accolées au massif préalpin en général. C'est le massif préalpin le plus arrosé. Alors, je sais bien qu'il est en chargé, sauf que cette année, vous avez vu qu'on revient vite à un arrosage rapide. C'est un massif qui, traditionnellement, est assez enneigé, même si les hauteurs cumulées de neige ne sont plus ce qu'elles étaient. Il y avait eu un climatologue au début du siècle qui avait fait, qui a pendant les années, je crois, 18, 22, pendant 4 ans, il avait fait des mesures au col de Charmette. De la neige, une hauteur de neige cumulée, il arrivait à 8 mètres, 8 ou 10 mètres, on est tout là, hein. Attendez, c'est une hauteur de neige cumulée, c'est-à-dire s'il tombe 2 cm, ça compte, hein, même si ça tombe tout de suite. On est sur des hauteurs de neige qui n'ont plus grand-chose à voir, mais on est sur un climat de fond, je voudrais un peu détruire peut-être, je ne suis pas climato-sceptique, hein, pas du tout, mais détruire ce que racontent les médias, parce qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on dit ça y est, vous avez en Espagne, il est tombé 700 mm dans la journée, c'est jamais vu. 4 jours après, il y en a toujours un qui parle, qui dit ici, ça s'est vu déjà, ne vous inquiétez pas, il est même tombé plus de 1000 mm des fois. Donc, je crois que ce qu'il y a, c'est que le climat dans est exacerbé dans ses excès. Quoi. Il y a de plus en plus peut-être de sécheresse, de plus en plus d'humidité en même temps, et donc de plus en plus de choses qui viennent mettre en cause la présence humaine ou disons que c'est la présence humaine et la manière dont elle s'est développée qui a créé de la fragilité. Il y a quand même ça qui est fondamental parce que la catastrophe de Valence, quand on voit les images, on prend quand même peur. Hein. Ça a été construit par une industrie de maison romaine. Hein. C'est construit partout et n'importe comment. En milieu marin, avec les catastrophes qu'on avait connues, c'est pareil. Tout d'un coup, on dit « Ah, le climat change complètement, donc vous voyez la catastrophe. » Non, si ça n'avait pas été urbanisé comme ça, ça ne serait pas une catastrophe. Ça serait un épisode particulièrement touché avec des conséquences négatives, mais ça ne serait pas une catastrophe. Donc, tout ça pour dire que ces contraintes climatiques, il faut y penser, elles sont toujours là. Et bon, je pense qu'elles resteront, mais on ne peut pas transformer la Chartreuse en désert. En tous les cas, si ça arrive un jour, on ne sera pas là. Ça a des conséquences sur le fait qu'on soit en moyenne montagne, sur les déplacements, sur tout ce qui tourne autour de la mobilité. Et ça, les élus locaux, en général, le savent bien, parce qu'ils ont la charge d'entretenir les routes, les chemins et tout, et il vaut bien que ça, c'est un coût énorme. Et on est même parfois obligé, c'est une merde, de faire la route, c'est bien ça. Parce que ce sont des travaux qui sont trop lourds pour les communes. Et des contraintes qui sont liées donc aussi à la pente. On est en moyenne montagne, elles valent pour l'agriculture, hein, ces contraintes liées à la pente, bien sûr. Elles valent pour les déplacements, elles valent pour les constructions, pour l'urbanisation. Bon, ce sont des données et d'évidence, mais que parfois on a tendance à trop sous-estimer. Après, qu'est-ce que tu as là ? Qu'est-ce qu'il y avait chez M. Mouchou ? Ah oui, je vous avais fait un petit schéma là, pour vous montrer comment fonctionnait un petit peu un territoire. Bon, ce que j'ai appelé ici un système territorial.
parce que ça permet de caler un peu les choses. Supposons que le Balcon Sud-Chartreuse ou même Trobézieux soit représenté par ce cercle en pointillé. Il est volontairement en pointillé parce que c'est une entité qui, de toute façon, est ouverte sur l'extérieur, hein, quoi qu'il en soit. Au point de vue du flux naturel, bien sûr, ça va de soi, mais aussi au point de vue argent, énergie, information, marchandises, ce ne sont jamais des cellules qui sont complètement autonomes. Fut une époque, dans les années 70, où il y avait un ensemble de discours qui s'étaient construits autour du développement local, et où on pensait que le local, c'était l'avenir de tout, et que tout partait du local. On en est revenu un peu, beaucoup parfois, au point même d'oublier le local, mais le local, il est toujours dépendant de ce qu'il y a autour. On voit mal qu'une cellule de 500 habitants, ou même de je ne sais pas combien, quand c'était le Balcon 2005, mettons, puisse vivre en autarcie complète. Ça n'a pas grand sens. Donc, ce serait l'entité territoire, ça serait ça. Il y a là-dedans des milieux naturels qui ont leur spécificité, je viens d'en dire deux mots. Et il y a des représentations, j'ai appelé ça des images, mais en fait ce sont des représentations, c'est-à-dire que les groupes sociaux qui utilisent ce territoire-là, ils en ont des représentations. Et vous êtes tous là, vous habitez tous à Chartreuse, mais vous n'avez pas tous les mêmes représentations de ce qu'est la manière dont fonctionne et quel est le devenir de Trobézieux. Donc, il faut faire sur un territoire avec toutes ces représentations différentes. Il n'est pas question de hiérarchiser les représentations. Hein. Il est question d'essayer de les reconnaître et de se dire, bon ben, les individus qui sont là, soit à titre individuel, soit à titre collectif, parce qu'ils appartiennent à tel groupe d'âge, à tel type de profession, à tel type de revenu, à tel type de culture, ils ont une certaine représentation du territoire. Et ces représentations du territoire, elles sont fortement liées et elles sont à la fois induites par les représentations, mais elles sont aussi créées par les pratiques. Ce que j'appelle les pratiques, c'est le fait que vous allez à Grenoble travailler, par exemple, le matin, vous rentrez le soir, c'est une pratique spatiale, ça. Hein, et ça modèle votre représentation. Vous quittez le boulot en bas, vous dites j'avais après les yeux, je monte dans mon petit paradis là-haut, tranquille. Avec la nature à la porte, tout va bien. Par contre, si vous êtes agriculteur ici, ou vous êtes nouvellement installé ici, et vous n'êtes pas du tout dans la même représentation, parce que vos pratiques ne sont pas du tout les mêmes. Vos pratiques sont des pratiques qui sont celles de gens qui habitent sur un espace donné. Comme c'était quand nous, on était gamins, les gens avaient leurs pratiques pour l'essentiel sur la commune ou les communes environnantes. Bon, ils allaient aussi à Grenoble justement faire vendre un certain nombre de choses, mais donc les pratiques et les représentations sont intimement liées. Et puis le quatrième élément qui contribue à structurer le territoire, c'est bien sûr tout ce qui est l'organisation politique de la société. Alors c'est la municipalité, c'est les intercos, c'est la présence de la métro, c'est le parc, c'est tout ce que vous voulez, toutes ces structures qui participent aussi du fonctionnement de ce territoire. Donc c'est un ensemble assez complexe qui, je le crois, en plus qui est inscrit toujours dans une dynamique, parce que c'est pas à un moment donné c'est comme ça, 10 ans après c'est plus comme ça, et 50 ans après c'est encore autre chose, ça fonctionne différemment. Puis les groupes sociaux changent, puis les populations changent, et puis les gens, ben, y en a qui naissent, d'autres qui disparaissent. Bref, tout ça fait qu'il y a une... Il faudrait presque mettre une flèche comme ça, qui serait celle du temps, et qui dirait que tout ça, ça évolue bien sûr selon les époques. Alors, ces deux, trois mots étant dit, j'en arrive à la présence du PNR. Je voulais dire deux mots quand même là-dessus. J'avais dit que je tiendrais un trois quarts d'heure, c'est mal barré, hein, ça fait combien déjà que je parle.
Ça fait une demi-heure.
Une demi-heure, non, ça va aller alors.
C'est bien.
Les enjeux liés... À la présence d'un PNR qui est une construction, disons institutionnelle, tout à fait récente, qui est, je vais juste rappeler un peu ce que c'est qu'un PNR quand même, parce que on l'oublie trop souvent. C'est un instrument, quand il a été créé,
qui a été un instrument révolutionnaire parce qu'il a été créé avec des façons dont on procède aujourd'hui, je dirais. Maintenant, on parle des comités de citoyens, des réunions, tous là, par exemple. Et puis, pour traiter des questions, on fait des groupes, on fait des commissions, etc. Et ce PNR, c'est la DATAR. À l'époque, c'était un organisme, direction à l'action régionale. Et au début, comment c'était, DATAR ? Alors, direction aménagement du territoire et à l'action régionale, c'est ça. Qui avait été créé, c'était à l'époque de Bichard, qui était ministre de l'aménagement du territoire, qui avait été créé pour être un outil transversal. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la France, c'est quelque chose qui fonctionne avec des couloirs. Et que ces couloirs, on a bien du mal à s'en sortir. Et quand on est piégé dans les couloirs, on ne sait pas bien trop comment faire. Si vous êtes forestier ou agriculteur, vous avez un couloir, vous avez un ministère, et puis vous avez une chambre d'agriculture, et puis voilà, ça va jusqu'en bas. Si vous êtes enseignant, vous avez un couloir, l'éducation nationale, c'est un bon couloir qui est bien fermé aussi. Si vous êtes, et ainsi de suite, tout le monde, hein, on marche dans les couloirs. Et les ministères sont construits sur des couloirs. Hein, économie, agriculture, ainsi de suite, industrie, voilà. Et cette DATAR, les gens de la DATAR s'étaient dit, mais il faudrait qu'on invente quelque chose qui soit transversal pour pouvoir, entre autres, s'occuper des espaces ruraux. C'était au moment où c'était la grande désertification. Hein, c'était un bouquin célèbre qui était sorti à l'époque, c'était Paris et le désert français. Ça doit être dans les années 60, c'est ça. Et donc, cet organisme, qui était peuplé de gens forts remarquables, on imaginait en 66 de regrouper des gens d'origine différente, ce qu'on fait aujourd'hui, hein. C'était quand même précurseur, un lieu qui est resté célèbre, les journées de l'URSS en Provence. Et là, ils ont regroupé une vingtaine de personnes. Il y avait des agriculteurs, un ou deux agriculteurs, des chefs d'entreprise, un ou deux intellectuels, des forestiers. Un ou deux politiques, enfin des gens qui étaient censés représenter un peu la société française. On les a enfermés pendant quelques journées et on leur a dit, il faut que vous inventiez quelque chose qui ne soit pas quelque chose qui vienne d'en haut, qui soit une structure qui ne soit pas coercitive, donc qu'on dise aux gens, vous allez rentrer dans un parc, inventer quelque chose qui tourne autour de l'espace rural avec une vision dynamique. Et les éléments qui ont été retenus, si vous voulez, par ce groupe-là, qui a travaillé là-dessus, c'était de dire, il faut qu'on trouve un outil où les gens aient envie d'aller. Alors quand je dis les gens, tous les acteurs, c'est-à-dire les élus locaux, les représentants des différentes corporations, si je puis dire économiques, les acteurs individuels, les acteurs collectifs, qu'ils aient envie d'adhérer à cette structure. Et cette structure, elle aura pour but de prendre en compte l'environnement. On n'en parlait encore pas beaucoup en 66, hein. Donc de ce point de vue-là, c'était précurseur. On parle de l'espace rural, là, donc c'était prendre en compte l'avenir un peu de cet environnement, qu'est-ce qu'il va devenir. Et puis, en même temps, quelque chose qui soit du développement local, quoi. C'est-à-dire, il y a dans la logique initiale des parcs, l'idée de l'adhésion, c'est pas quelque chose qui est imposé d'en haut. L'idée de la préservation de l'environnement sous toutes ses formes, hein. Et puis l'idée du développement local, du développement économique aussi, du développement local. Alors, les parcs, il y a en fait, en émergence dans ces journées de l'URSS et la création des PNR, il y avait le développement durable. On ne parlait pas de développement durable. En 1966, personne ne savait ce que c'était. La première fois où en français développement durable apparaît, c'est en 82, dans un rapport international où quelques francophones ont dû s'insurger, parce que c'était le développement soutenable. Pour les anglophones, on parlait de développement soutenable, on ne parlait pas de développement durable. Donc là, en 66, on est dans la logique du développement durable, qui aura un énorme succès après, enfin l'expression, où on mettra un peu tout ce qu'on veut derrière ça. Mais c'était du développement durable avant l'heure. Et. Donc, je l'ai dit, ça, une structure qui, pour fonctionner, demande l'adhésion des acteurs et la création de partenaires entre tous ces acteurs. Alors, je voulais insister sur une chose.
le PNR pour la région, c'est un outil essentiel. C'est pas pour rien que la région Rhône-Alpes, depuis le premier président, c'était Charles Mignon, qui s'est lancé dans le PNR, et tous, ils ont repris, droite, gauche, peu importe, a mis l'accent sur le PNR. Ça doit être la région de France qui a le plus de PNR. Pourquoi ? Parce que, là, c'est une lecture un peu personnelle, mais la région a peu de moyens d'action sur le territoire en tant que surface. Elle a des moyens d'action sur les ports, sur un certain nombre de choses, sur les lycées, sur des choses ponctuelles sur le territoire. Manière en surface, si vous voulez, la région n'a pas de moyens légaux. Le conseil départemental, feu le conseil général, le conseil départemental, lui, a des actions à cette échelle régionale, départementale. Hein, mais la région, elle n'a pas. Elle n'a qu'un moyen qu'elle a trouvé, ce sont les PNR. Parce que la région finance les PNR, elle n'est pas seule. Mais c'est quand même elle qui met des billes régulièrement, et en termes de fonctionnement, cette année. La région, elle nomme le président de PNR. Tous les présidents de PNR sont nommés par la région. C'est pour ça que chaque fois que la majorité régionale change, les présidents de PNR, ils changent. Donc, je dis ça au passage, c'est un bon moyen pour les élus locaux d'accéder directement à la région et à la tête de la région. Et ces PNR, ils ont pour but, justement, de construire des projets collectifs et de porter ces projets collectifs auprès de la région qui, elle, a des moyens régionaux, mais a aussi des moyens dans la mesure où elle gère partiellement une partie des crédits européens. Elle a des crédits européens. Un certain nombre de régions, il faut quand même savoir, en France, sont incapables de gérer les crédits européens, hein, qui repartent à Bruxelles. Parce que Bruxelles, si vous n'utilisez pas ces crédits, il les reprend. Hein. Il n'est pas stupide complètement, quoi qu'on en dise. Je crois que c'est une porte d'entrée, à condition de rentrer dans les projets qui sont soutenus, d'abord d'être au courant des projets qui sont soutenus par les PNR, c'est-à-dire d'être présent dans les parcs, que ce soit dans le conseil d'administration, que ce soit dans les commissions, et toutes les commissions de la forêt, de l'agriculture, d'ici, de ça. Il faut absolument que vous ayez des représentants, que ce soit des élus ou pas des élus, mais des représentants dans toutes ces commissions. C'est là que vous aurez le maximum d'informations, et tout d'un coup, ça va faire tilt. Vous allez dire, ah, mais il y a des crédits, là, on va monter un projet, parce que l'autre commune là-bas, elle va faire ci, elle va faire ça. Et on décroche parfois des choses, des crédits énormes, parfois. Hein, énormes. Et le paradoxe du PNR, alors j'ai dit, ce sont des présidents, dont votre président, enfin notre président, c'est le maire du Sapé.
Escaron.
Dominique Escaron, qui a été nommé par le président de la région, hein. C'est notre secret, ça marche comme ça. Bon. Avant, c'était le président, Eliane Giraud. Elle avait été nommée par Jean-Jacques Carral. Enfin, j'ai été amené à travailler avec elle parce que c'était l'époque. Et le paradoxe des PNR politiquement, c'est intéressant en même temps. Il n'y a jamais eu un président de PNR qui a fait une belle carrière politique. Je veux dire, de rang national. Parce que, à partir du moment où vous êtes président de PNR, même si vous avez été nommé par Vauquier, par Kéran, par peu importe, vous êtes obligé de travailler avec tous vos élus. Et vos élus, ils ne sont pas de la même couleur que vous, nécessairement. Ils représentent un peu tout l'échiquier, hein, ça va de soi. Et donc, c'est un peu le paradoxe politique, je dirais, des PNR. C'est pour ça, à mon sens, qu'il faut foncer là-dedans, quelle que soit la couleur du président et des instances, parce que c'est des gens qui sont d'abord, en général, qui sont des gens ouverts et qui sont obligés d'être ouverts, même s'ils n'étaient pas trop au début, parce qu'autrement, les partenariats ne peuvent pas être montés. Quoi. Ça nous commence à dire, mais attends, un tel, tu te rends compte, il n'est pas de telle majorité. Dans un PNR, on s'en fout un peu, hein, heureusement. Voilà, c'était ça le paradoxe des PNR, puisque je l'ai observé, et puis je ne suis pas le seul à avoir observé ça quand même. Qu'est-ce que je voulais raconter sur le PNR ? On pourra en discuter après, hein. C'est des choses que j'ai dit qui vous surprennent ou qui doivent être. Voilà, vous avez la photo du PNR, là, vous l'avez en tête. On retrouve la carte de la photo aérienne du début, hein, grosso modo. Sauf que vous avez des parties avales de communes, hein, qui sont intégrés dans le PNR. Alors si on prend la nouvelle, alors j'ai oublié de dire qu'il y avait une charte qui était renouvelée tous les 12 ans, je crois. Elle vient d'être renouvelée sur le parc de Chartreuse. Et qu'à chaque fois, vous avez toujours 2-3 communes en plus qui disent oh, « bah, pourquoi je ne rentrerai pas dans le PNR ?» Donc c'est que ça ne doit pas être si terrible que ça. Alors, les régions où il n'y a pas de PNR et où on crée un PNR, en général, il y a des gens qui d'entrée sont un peu froids, c'est les chasseurs. « Ouh là 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 là, un parc naturel, ça va être terrible pour la chasse. » Non, c'est pas du tout terrible pour la chasse. Ça se passe bien en général, même si au début ça chauffe. Ça chauffe un peu en général entre les écologistes, les chasseurs. Ça fait des réunions mouvementées au début, au moment de la création, mais après ça se calme et ça se passe plutôt bien. Voilà, j'en arrive. Troisième, qu'est-ce qu'il y avait autre chose là?
Oui, mais c'est à propos de la forêt, parce que vous êtes dans le cœur du massif forestier de Chartreuse quand même. Hein. Vous êtes là, c'est une vieille photo, enfin une vieille carte, mais je pense pas qu'elle soit périmée, même si elle date de 2003 ou 2005. Avec 70% de massifs forestiers à peu près, qui a plutôt tendance à s'accroître du fait des friches, de l'enfrichement, plutôt qu'à diminuer. Et autour de la forêt, ben d'abord, vous savez qu'il y a eu une AOC quand même sur le bois de Chartreuse, et je crois qu'on peut monter des projets qui seraient bien vus par le parc et qui pourraient être montés avec d'autres communes sans grosses difficultés. Alors la métro, on pourrait en dire tellement de choses. Bon, je vais parler de la métro d'un point de vue un peu neutre, tout en vous disant que moi j'ai été de ceux qui ont été opposés à la métro au départ. En tant que citoyen, je parle, citoyen, hein, après je dirais géographe. En tant que citoyen, parce que j'avais le sentiment qu'on allait tous se faire bouffer. Et voilà, bon, ça s'est fait, j'étais pas élu, j'avais pas de pouvoir particulier. Le maire de Caen m'a dit, ne t'inquiète pas, de toute façon on fera comme feront les autres. Si je lui ai dit ça, c'est un argument politique de première volée. Hein. Bon, mais il y avait de quoi s'inquiéter un petit peu quand même. Alors, ces métros, elles datent de... Enfin, l'idée est très vieille. Hein. Avant, c'était, on parlait des métropoles d'équilibre. Mais ça, quand j'étais étudiant, dans les années 60, c'était, il fallait créer des métropoles d'équilibre. Et puis, à partir de 2010, on a commencé à parler, oui, il faut vraiment que la France ait des métropoles. Et on est arrivé en 14, c'est ça, hein, une loi, alors là c'est une loi, hein, c'est pas un règlement comme le PNR, la loi dite de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, où on a créé une vingtaine de métropoles, c'est ça, dont certaines, dans mon sens, ne sont pas du tout des métropoles comme on les entend, quand on parle de géographie et d'urbanisation, hein. Une ville de 400 000 habitants comme Grenoble, j'attends qu'on m'explique pourquoi c'est une métropole. Peu importe, c'en est une, légalement, qui fait 400 000 habitants, un peu plus. Hein. Et ces métropoles, elles ont 6 compétences obligatoires, là, les élus les connaissent par cœur, celles-là. Le développement, l'aménagement de l'espace, la politique locale de l'habitat, la politique de la ville, les services d'intérêt collectif, l'environnement, politique du cadre vie. Oui, non, ça veut dire... Alors la nôtre, qui a été créée en 2015, elle a pris la place de la communauté d'agglomération qui existait avant. Elle a 450 000 habitants, 49 communes. Elle est gérée par un conseil métropolitain. Vous verrez un vice-président, il vous en parlera mieux que moi. Et ce qu'on constate, c'est que dans ce conseil métropolitain, le poids des communes de moyenne montagne est... faible, très faible. Pour tout simplement, pour la bonne raison que le poids démographique, il est dans le bas pays, si je puis dire, dans les bas pays. Hein. Monsieur Amuzet a regardé quand même la spécificité des Alpes de Grenoble, c'est Grenoble-Alpes Métropole, on dit maintenant, c'est ça. C'est que les 3 premières communes en termes de population du département sont dans la métropole. C'est Grenoble, 150, c'est ça à peu près, 150 000 ou 156 000. Ensuite, c'est Saint-Martin-d'Hères, 39 000. La troisième, c'est Échirolles, 37 000. Et si on continue, Fontaine, c'est la sixième. Et entre Échirolles et Fontaine, il y a juste Vienne, 31 000, et Bourgoin. C'est-à-dire qu'on a les 3 plus grandes agglomérations de 10 départements qui sont dans la même. Donc là, il y a un poids. Vous imaginez deux populations, ça veut dire un poids économique, ça veut dire un poids politique aussi qui est considérable. L'essentiel des pouvoirs de décision, ils sont là, aujourd'hui. Ils sont plus là qu'au parc, c'est vrai. Sauf que cette métro, je trouve qu'il y a eu ces deux, trois dernières années, un exemple qui est amusant à cet égard, cette métro, elle a besoin de ces communes de moyenne montagne, elle a besoin du parc aussi. Parce que quand Grenoble fait sa pub sur Grenoble, une ville au cœur de la nature, au cœur des montagnes, en fait, elle fait référence à ce qui est autour de Grenoble, mais pas à Grenoble, qui n'est pas une ville verte pour un rond, hein. Par rapport à d'autres en France où il y a quand même des parcs plus élaborés. Alors, qu'est-ce que de dire de cette métro sans dire trop de méchantes choses? Que les projets et les décisions de la métro sont avant tout, je ne vous apprendrai rien en vous disant ça, des décisions et des projets qui sont des projets soit urbains, soit à visée urbaine. C'est-à-dire, toutes les fois, on va parler de la moyenne montagne, c'est dans l'optique de c'est un terrain de loisirs, c'est là que les urbains vont aller le week-end, c'est là où les plus aisés d'entre nous pourront acheter une maison, c'est là, voilà, ça c'est sous-entendu, c'est pas dit bien sûr comme ça, hein. Et juste vous faire une remarque à cet égard, quand vous regardez la carte, ah ben c'est celle-là, eh bien, périmètre de la métro, vous voyez que la métro a pris un bon bout du parc de Chartreuse, la partie sud, hein, du parc de Chartreuse, mais vous pouvez vous demander pourquoi il a été incapable de monter sur le plateau du Vercors. Parce que le plateau du Vercors et le PNR, en l'occurrence, et les élus locaux, se sont opposés à l'extension de la métro. Il y a eu des bagarres politiques assez intenses, hein, pour que les communes, entre autres, du plateau nord du Vercors ne rentre pas, ne tenait pas du tout à rentrer dans la métro. Saint-Nizier, si vous voulez, était dans la même situation que le Sapet, grosso modo, une ancienne commune touristique, à 10 km de Grenoble, enfin à 10-15 km de Grenoble, avec des gens qui pour l'essentiel travaillent en ville et tout, mais ils sont opposés complètement. Et ils sont opposés pourquoi? Alors là, c'est une interprétation personnelle, mais j'y tiens. Je pense, et tout le respect, hormis tout le respect que j'ai pour les locaux, la Chartreuse a manqué d'un leader ou de deux leaders d'envergure nationale. Le Vercors avait un leader d'envergure nationale qui s'appelait Jean Faure, qui était du Vercors d'Outran, qui a été maire d'Outran, qui a fondé la FRAD, qui a été un jeune agriculteur, qui a été, bref, qui a toujours, qui était très attaché au Vercors, et il avait un pendant, si je puis dire, puis lui il était centre, on va dire, hein. Et il avait un pendant qui était socialiste, qui était pillé, qui était le maire de Saint-Jean-en-Royans. Mais tous les deux, ils étaient d'accord sur le parc. Et ils sont toujours battus ensemble. Et quand il a fallu se battre contre la métro, ils ont été ensemble. Hein, contre. Pour l'anecdote, c'est comment on l'appelait, Jean Faure, le renard du Vercors, c'est ça. Il a été vice-président du Sénat, donc c'est quelqu'un qui a du poing, vice-président du Sénat. Hein. Et toutes les fois, il montait à la tribune, et les sénateurs entre eux disaient « Oh là là, ils vont encore nous casser les pieds avec le Vercors ». Il avait que ça, il défendait toujours les dossiers Vercors. Et c'était devenu Monsieur Vercors. Et quand la métro a voulu, au travers du préfet, entre autres, s'attaquer au parc du Vercors, Jean Faure et Pillet, ils ont dit « Non, 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 c'est bon, point final, c'est bon ». Donc le préfet a fait marche arrière. Le préfet, il n'est pas bien quand ça commence à... Et je pense que c'est comme ça, hein, l'histoire a voulu qu'on n'ait pas de leader local. Il y avait quelqu'un, il s'appelle Jean-Paul Claret, mais qui est côté Savoie, qui a été conseiller général, qui a été vice-président du parc, qui n'a jamais voulu prendre la présidence d'ailleurs. Qui était quelqu'un très ancré localement, mais en même temps avec du recul, et quelqu'un qui aurait pu faire, mais bon, ça ne lui disait pas non plus de partir dans les hautes sphères parisiennes.
Pourtant, il y a là un certain nombre de choses qui se décident dans ce pays, de, vu la manière dont il fonctionne. Alors, cette métro, cette urbanisation autour, tu vas plus voir,
cette urbanisation, voilà, viens là, autour de cette Chartreuse, et notamment pour ce qui nous concerne de la partie sud, bah, vous le voyez bien, l'urbanisation sur le Grésil-Moudan, sur la cuvette grenobloise qui est saturée complètement, et sur la cuisse de Vorac et la cuisse du Château de Chambéry, qui sont en voie de saturation aussi.
Et à partir de ça, vous avez tous les processus de périurbanisation, en fut un temps on parlait de rurbanisation, ou périurbanisation, qui fait que cette urbanisation, ben, elle remonte, enfin, surtout les territoires qui sont les plus accessibles, et puis surtout qui sont les mieux exposés. Alors, vous êtes un petit peu à l'ombre, si je puis dire, mais qui est en plein soleil, c'est un adret fabuleux. C'était un adret exceptionnel pour l'agriculture, hein, pour les cultures fruitières, pour la fraise, ça a été... Mais à Provédie aussi, la fraise a été, je crois, mais c'est surtout à la thé. Hein. La vigne aussi, à la thé. Mais les fraises, c'était pour les femmes, les fermières, c'était une source de revenus qui était loin d'être négligeable. On allait place aux herbes, là, palais de justice, place du palais de justice, et on vendait les fraises, ça se vendait bien, les fraises de thé étaient recherchées, plus tout ce qui était fruits, bien sûr. Hein. Alors, à partir de... Je ne vais pas refaire l'histoire de la périurbanisation et de la rurbanisation, mais disons qu'il y a eu un attrait pour les gens qui en avaient les moyens, à partir des années 70, de s'installer dans ce type de commune. Donc, a priori, dans un premier temps, les plus exposés. Alors, quand on regardait, on verra ça après, quand on regardait le Grésil-Vaudan, je faisais toujours ça avec les étudiants, je leur disais, prenez les petites annonces, quand vous m'aurez mis, vous me direz, quel est le versant du Grésil-Vaudan qui était recherché. Parle là des années 70-75, ben on voyait bien que ce qui était recherché, c'était le côté Bivier, Saint-Imier, Montbonno, puis en face, Frauges, tout ça, pas trop. Sauf que maintenant, le processus, il a gagné l'ensemble du Grésil-Vaudan. Donc, cet aspect-là a évolué. Hein. Alors, au début, ce processus, les années 70, a été, je dirais, des beaucoup de profs, en fait, hein, des cadres moyens. Hein. Qui achetaient des vieilles maisons, qui retapaient, des jeunes du pays qui avaient un bout de terrain et qui travaillaient en bas à la Thompson ou à la ville de Grenoble ou autre, et puis qui se disaient bon, bah, tiens, je vais retaper la grange, je vais faire ma maison, au moins je resterai au pays, et ainsi de suite. Donc vous voyez des gens de classe moyenne, je dirais. Après, on est passé aux années 80, alors quand on prend. Quand on regarde un petit peu en regardant les recensements et l'origine des gens, les professions, on est passé à des cadres plus cadres moyens, commerçants, gros artisans ou autres, qui étaient déjà des gens ayant un peu plus de revenus. Quoi. Et puis on est, après, à partir des années 2000, on est dans des couples de cadres supérieurs, soit du privé, soit du public, soit éventuellement qui viennent s'installer. Mais on est sur des tranches de revenus, alors... tiens, tu peux la mettre.
Alors, je ne peux pas vous dire ce que c'est, parce qu'il faudrait... On pourrait vous expliquer, notre collègue, ce que ça veut dire, mais ce qu'on peut le voir, c'est que les revenus les plus élevés par ménage ou par individu, c'est ce qu'il y a en rouge. Donc, vous voyez bien, ça vous surprendra pas, hein. Coran, Bivier, Coran, je crois que c'est la première commune du département en termes de revenus par ménage, hein. Et qu'on est dixième, et vous êtes plus loin quand même. Vous avez encore cette chance, si je puis dire, d'être un peu plus loin.
Et qu'on est surtout du rouge maintenant, comme Coran, Bivier, Saint-Imier, Bernay, voilà. Toute cette partie de l'agglo, c'est la partie pauvre de l'agglo, si je puis dire. C'est Chirol, Saint-Martin-d'Air, c'est tous ces secteurs-là. Et puis vous avez ensuite, alors sur les plateaux du sud, sur Venon, Murianette, Saint-Martin-d'Urgage, là vous retrouvez aussi des communes aux revenus où les ménages ont des revenus très élevés. Les revenus des ménages sur pied, ça doit être plus de 6 000 par mois. Hein.
Alors quand vous connaissez le prix des. Mais vous le connaissez ici aussi, mais vous imaginez peut-être pas à quel point on en est. Il y a des maisons qui sont mises en vente, je ne dis pas qu'elles sont achetées. Hein. Actuellement, il y en a deux qui sont mises en vente, 750 000 euros. Qui ne sont pas des maisons extraordinaires, hein. j'aurais l'argent, je ne m'installerais pas là. J'irais vivre au centime, je ne sais pas où, mais pas à ce prix-là. Qui... et c'est ces populations qui viennent, surtout, je dirais, au fur et à mesure des mouvements migratoires, entre les années 70 et 2010, sont des populations qui, bien sûr, ont un niveau de vie élevé et qui exigent de plus en plus de services spécifiques et de services à la population, non seulement de qualité, mais diversifiée. Ce qui pose souvent aux élus locaux, et aux vôtres aussi, j'imagine, des contraintes, parce que les budgets comme nous sont pas extensibles à l'infini. Et pour obtenir des financements, on obtient des financements en allant les chercher effectivement à la métro, hein, en général, en bas. Mais à chaque fois, c'est sur des opérations ponctuelles. C'est difficile de boucler un budget en se disant, bon, allez, on va faire ci cette année, on va faire ça. C'est pas du tout évident. On a donc un processus de ségrégation sociale et spatiale qui est extrêmement fort. Et la question, c'est de dire comment on y échappe. Alors, comment on y échappe? Moi, j'ai pas de solution. Il y a des communes, mais comme la vôtre, vous êtes encore, quand on regarde un peu, c'est d'ailleurs, je vois bien les gens que je connais ici, vous êtes d'origine assez variée, de revenus sans doute assez variés, vous faites la même réunion à quai, vous n'auriez pas ça du tout. Hein. Parce que d'abord, les gens de souche, ils ne viendraient pas. Ou ils ne viendraient plus, et vous auriez des nouvelles populations charmantes par ailleurs, hein, de jeunes parents, cadsup et tout, mais qui sont d'une exigence folle, quoi. Et qui ne comprennent pas pourquoi. Il y a un jour quelqu'un qui était venu à la mairie, il y a déjà quelques années, qui se demandait est-ce que le tramway monterait un jour à queue. Mais on entend des choses comme ça, quoi. Je veux dire, des trucs. Je dis c'est pas possible de penser des choses pareilles. Alors, dans tout ça, j'en finirai là, mais malheureusement, je ne vais pas vous donner de recette. Hein. Qu'est-ce que va faire Provisieux là-dedans? Alors, vous avez là une répartition de la population de Provisieux, et là, la population de la métro par tranche d'âge. Donc, vous avez en fait sur Provisieux une population qui est assez. On est en 2021, alors, nous sommes donc séparés aujourd'hui. Une population assez équilibrée, hein, entre jeunes, population active et population âgée. Et puis à côté, vous avez la population de la métro, qui est effectivement une population, elle, entre autres, si vous regardez les 15-29 et les 30-44, de jeunes actifs qui sont extrêmement nombreux. Une population qui, globalement, est jeune, parce que les tranches d'âge de plus de 75 ans, pour l'instant, c'est rien. Quand on regarde ça, on se dit que depuis 20 ans, la population de la métro, si jamais elle se renouvelait pas, ce serait une population de vieillie. Je me souviens quand, à l'époque, quand on faisait des cours aux étudiants sur la démographie mondiale, le grand truc à la mode, c'était de dire, vous voyez, la croissance de la population chinoise, vous voyez le monde et tout. Vous savez, aujourd'hui, quel est le problème de la Chine? C'est un problème de vieillissement, parce qu'ils ont une politique antinataliste extrêmement forte, entre autres, vis-à-vis des jeunes filles, des jeunes femmes. Et c'est une population qui a un vrai vieillissement accéléré. Donc, tout ça pour dire que quand on regarde une population, je pense qu'on peut lire assez aisément le futur du territoire en question. C'est-à-dire, on peut lire que dans ces tranches d'âge, là, à partir de 60 ans, elles vont souhaiter rester ici. Est-ce qu'elles sont dans des habitats qui sont adaptés? Est-ce qu'elles peuvent avoir trouvé une structure sur place qui serait susceptible de les accueillir, ne serait-ce qu'un temps? Il y a, c'est juste des exemples, à Saint-Pierre-d'Entremont, la commune a fait une structure qui accueille à la fois des personnes âgées de la commune et puis des jeunes couples qui veulent s'installer. C'est la mixité, on fait la mixité des âges. Et ça se passe très très bien, et les logements sont occupés très très rapidement.
Terminé.
Attends, juste, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis je vais arrêter, oui, oui. Bon, j'avais des projets, mais ça va sortir dans les discussions peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, à mon sens, ce qui manque ici comme à pied, c'est un restaurant. qui est un point de village, qui est un point, ce qu'il y avait avant, hein, et qui est un point de rencontre, de vie. Vous avez une vie active, mais elle se passe tout à Pommaret, c'est bien. Hein. Mais c'est vrai que s'il y en avait une partie qui se passe au village, ce serait une bonne chose. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Hein. si, après, s'il faut. Les élus ils sont obligés de choisir des projets, parce qu'ils ne peuvent pas. Bien sûr, on a tous des projets dans la tête, on pourrait faire. Bon, il y a la question de la maîtrise du foncier et de la maîtrise de l'habitat aussi. Vous avez un avantage, si je puis dire, c'est que vous n'avez pas tellement de terrain constructible. De fait, du fait de cette moyenne montagne, de la pente, c'est un avantage quelque part. En même temps, ça bloque une croissance potentielle. Je suis remonté à Planfay, il y a longtemps que je n'étais pas allé à Planfay. J'ai vu que ça avait quand même beaucoup changé aussi par rapport aux années 70. Hein. C'est vrai que c'est un coin qui est splendide. Hein. Bon voilà, les projets, bon, j'en ai plein la tête hein, pour Quai ou pour Provézieux, mais on va laisser ça sortira dans la discussion, je pense. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour vous montrer un peu les échelles de structure, là-dedans, la structure permanente, c'est le massif de moyenne montagne. Parce que quoi qu'on fasse, quoi que vous fassiez, quoi que vous imaginiez, vous allez sans arrêt être confronté à ça, on est en moyenne montagne. On a tendance à l'oublier parce qu'il y a moins de neige, parce que voilà, il fait 3 semaines, parce que si tout d'un coup ça tourne, on a un hiver un peu rude, vous allez voir, tout le monde va se mettre à dire « Oh là 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 là, quelle catastrophe !» Voilà.
Merci.
Que je voulais vous dire.
Merci.
C'est très bon.